BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, bon week-end et merci d'être avec nous. Sur 01 TV, vous le savez, la chaîne sur les box, sur Internet, avec la chaîne YouTube de 01 TV sur 01net.com et sur BFM Business le dimanche matin à la radio et à la télé. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de quoi je me mêle. On va évoquer encore une fois tout à l'heure le CES de Las Vegas, vu par un spécialiste qui le suit depuis de très nombreuses années. Il s'agit d'Olivier Ezrati, qui est un fin connaisseur du monde des nouvelles technologies et qui est auteur aussi et qui nous dira ce qu'il en pense de ce CES 2021 qui était virtuel. Bien sûr, on reviendra sur la transformation de ce CES qui a beaucoup parlé de Covid et puis on évoquera aussi les gadgets improbables qui ont été présentés. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir au contenu de quoi je me mêle sur la page Facebook de quoi je me mêle et puis nous rejoindre aussi sur Twitter avec le hashtag DQJMM si vous voulez réagir. Merci d'être là et bienvenue. Et le club de la presse IT, bien sûr, pour débuter. Nicolas Lelouch est là. Salut Nico.
Salut François.
Journaliste à 01net.com et Emmanuel Paquette est avec nous aussi aujourd'hui. Salut.
Bonjour François.
Emmanuel, journaliste à l'Express. L'actu de la semaine, et on commence par ces chiffres qui donnent le tournis. On dit que, évidemment, cette épidémie a été une catastrophe pour beaucoup d'entreprises, mais ça a été aussi salvateur pour d'autres, Nicolas.
Oui, tout à fait, particulièrement dans le domaine du streaming, puisque vous le savez, vous étiez beaucoup à la maison cette année et vous avez peut-être passé beaucoup de temps sur Netflix.
Évidemment,
il y a plein de services de streaming aujourd'hui, mais tout ça, en tout cas, ça permet de donner un élément rassurant à ceux qui s'inquiétaient justement de l'arrivée de plein de services de streaming et qui pensaient que du coup, ça allait être la fin de Netflix, ou en tout cas la fin de la croissance de Netflix. Eh bien, en 2020, il y a 37 millions de nouvelles personnes qui se sont abonnées à Netflix et on dépasse les 200 millions d'abonnés, 203 millions précisément. C'est un record pour un service de streaming.
Incroyable. 200 millions d'abonnés. Alors évidemment, le cours de la bourse de Netflix a explosé.
Ça s'est envolé, oui.
C'est dingue. Et puis, c'est qu'une petite info parmi d'autres hein, concernant Netflix, je crois.
Oui, tout à fait. Enfin, dans l'idée, Netflix a réalisé un chiffre d'affaires qui est supérieur à ses attentes. En 2020, ils ont gagné 25 milliards de dollars et surtout, ils commencent à plus ou moins réussir à conserver un bénéfice stable. C'est-à-dire, ils font pas mieux en termes de marge que l'année dernière. Ils font même un petit peu moins bien, mais en tout cas ils rassurent parce qu'aujourd'hui ce que Netflix dit c'est qu'ils sont capables de s'auto-alimenter sans aide de fournisseurs, d'investisseurs externes
extérieur.
À Netflix. Donc ça c'est quand même une nouveauté importante, c'est la preuve que Netflix est vraiment en train de devenir une entreprise rentable. Il y a plein de contenus qui vont arriver en 2021, ils sont en train d'acheter plein de gros films à haut budget, ils sont en train de devenir vraiment une alternative sérieuse au cinéma, ils sont vraiment respectés par l'Académie des Oscars, par l'Académie de tous les grosses cérémonies à succès aux États-Unis.
Oui, on a l'impression que les relations entre les salles de cinéma, en tout cas les producteurs et Netflix, sont en train de s'apaiser un petit peu.
Oui, hein. il y a clairement une vraie relation, même avec la France, avec plein de pays européens. Ils font vraiment de plus en plus de productions locales pour séduire. D'ailleurs, ils ont donné un chiffre sur la série Lupin, vous savez, avec Omar Sy, qui est disponible depuis une ou deux semaines, je crois, sur Netflix, qui aura 70 millions de téléspectateurs d'ici la fin du mois. C'est-à-dire qu'en 28 jours, il y aura 70 millions de personnes qui auront vu Lupin. C'est un succès phénoménal pour une série française.
Elle est première
dans plein de pays, elle est deuxième aux États-Unis, alors que c'est quand même une série francophone à la base. Donc pour dire à quel point le succès Netflix est monstrueux et à quel point ils sont capables de faire chuter les frontières. Et ce que j'adore dans ce communiqué justement des résultats financiers de Netflix, c'est qu'ils abordent la question de Disney+. Et ils disent justement, on est impressionné par Disney+, entre parenthèses, 87 millions d'abonnés en un an, point d'exclamation. Et ils disent, notre stratégie pour combattre Disney+, est assez simple, ne rien faire, à savoir continuer à satisfaire nos abonnés. Et je trouve ça marrant parce que c'est une façon de dire qu'ils accueillent très bien la concurrence, que la concurrence est très forte, mais ils n'en ont pas peur parce qu'ils savent que le catalogue de Netflix est solide.
Emmanuel, on se doutait du succès incroyable de Netflix, mais ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, Netflix a perdu de l'argent, je crois. Hein. Et là, ils commencent à en gagner.
Alors en fait, ils sont ce qu'on appelle ils commencent à être free cash flow, c'est-à-dire qu'entre les investissements qu'ils font, par exemple pour les séries en grande partie ou les films, et puis les emprunts qu'ils doivent faire pour financer ce type de contenu, eh ben ils commencent à être positifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de la banque. Alors il faut savoir quand même qu'ils ont 15 milliards de dettes depuis 2011 hein, qui ont été engrangés justement pour se faire un catalogue, parce que contrairement à Disney qui a déjà un catalogue ancien et qui peut mettre à disposition sur sa plateforme, bah, Netflix il partait de zéro, donc il a fallu qu'il licencie les catalogues à des tiers, donc ça ça coûtait de l'argent, et puis lancer sa propre production et puis bénéficier, faire grossir cette propre production, puisque une fois c'est des coûts fixes, hein, une fois qu'on a financé cette propre production, on peut la remettre sur sa plateforme, on n'a pas besoin de racheter des droits comme ils le font avec les catalogues d'éditeurs tiers. Donc c'est la stratégie de Netflix d'être de plus en plus indépendant des autres, sachant que les autres en l'occurrence, parce que là on parle beaucoup de Disney, mais les autres se lancent aussi avec leur propre plateforme, donc reprennent leurs droits sur les catalogues existants.
Oui, donc appauvrissent le catalogue de Netflix, forcément,
effectivement,
ce qui était le cas avec Disney, hein, on se souvient il y a quelques années, et Disney avec, petit à petit enlevait tout son contenu.
Les Marvel déjà, qui ont quitté en grande partie, alors pas tous, hein, mais en grande partie la plateforme, et puis là maintenant donc, on a Discovery Plus qui est en train de lancer son propre service, on a HBO Max qui lance son service aux États-Unis hein, essentiellement, on a Peacock aux États-Unis qui a déjà plus de 20 ou 30 millions d'abonnés hein, donc ce sont des services qui commencent à arriver mais essentiellement aux États-Unis. On ne les voit pas encore arriver en Europe, donc la vraie bataille, ça va être là. D'autant que Netflix, ils annoncent quand même vouloir s'attaquer à d'autres marchés, puisque c'est là d'où vient la croissance aujourd'hui, hein, ça ne vient plus des États-Unis, et notamment l'Afrique subsaharienne. Donc c'est la prochaine étape de Netflix, c'est d'arriver en Afrique et de pouvoir se développer fortement en Afrique francophone, mais aussi anglophone. Donc ça va être le prochain pari de Netflix, sachant qu'il reste le dernier gros marché, enfin les deux gros marchés, l'Inde et la Chine, mais qui sont dans un marché aujourd'hui plutôt fermé.
Et pourtant, ils poussent. Hein. Il y a énormément de contenu à destination des spectateurs hindous. Enfin, il y a énormément de choses, mais ça va prendre du temps.
Il y a toujours des services très, très nationaux là-bas. Ça fonctionne notamment, d'ailleurs, Disney est propriétaire, je crois, d'un service qui s'appelle Stars. C'est en Inde qui est le gros service de streaming là-bas.
Oui, c'est très localisé.
J'ajoute à ce que dit Emmanuel sur l'Afrique. Aujourd'hui, ils ne font pas de dissociation entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique dans leur nombre d'abonnés. Et on sait qu'il y a 66,70 millions de personnes dans toute cette zone, mais on ne sait pas qui est en Europe, qui est en France spécifiquement, qui est en Afrique, et donc on peut imaginer que ça va se changer dans quelques temps.
Voilà, et puis rappelons que Netflix investit des dizaines de milliards, pas loin, mais c'est peut-être 12 ou 15 milliards chaque année pour produire du nouveau contenu. Hein. On attend 70 films exclusifs cette année avec Leonardo DiCaprio, des stars
gros
incroyables,
budgets,
gros budgets.
Et il y a une grosse tendance à acheter les films qui étaient autrefois proposés au cinéma, et on a des batailles entre Netflix, entre Apple, entre les grosses boîtes qui ont beaucoup d'argent pour acheter ces films et les voler en quelque sorte aux studios traditionnels.
Ça va être intéressant de voir dans les prochaines semaines ce que va devenir le James Bond qui devait sortir l'année dernière et qui visiblement avec ce qui se passe ne sortira même pas en avril. Est-ce qu'il va passer directement sur les plateformes de SVOD ou est-ce que le studio va décider de le décaler encore?
C'est réglé sur les plateformes, hein. Visiblement personne n'a voulu mettre les 600 millions de dollars qui avaient été demandés, monstrueux. En revanche ce qui se passe c'est que la MGM est à vendre, donc le studio de James Bond, et que Apple serait en négociation pour l'acheter.
Donc à partir du moment où il achète, ils font ce qu'ils veulent des droits du film.
Donc il est possible que ça passe entièrement sur Apple TV+.
On revient en France avec un plan ambitieux, Emmanuel, que tu vas nous expliquer. C'est Emmanuel Macron qui a dévoilé, il y a quelques heures, le plan quantique pour la France.
Enfin, je vais essayer de vous l'expliquer. Hein, le quantique, c'est pas évident. Voilà, c'est une technologie qui part en plus, qui peut irriguer plein d'activités différentes. Donc effectivement, c'est un plan d'1,8 milliard sur 5 ans. Alors dans les 1,8 milliard, il y a 1 milliard d'argent public. Donc des laboratoires notamment, et puis 800 millions qui sont en gros 500 millions de la sphère privée. Donc dedans, on retrouve des grandes entreprises, alors Total, EDF, Thales évidemment, Atos évidemment aussi. Donc c'est toutes ces sociétés-là qui travaillent au développement de technologies quantiques. Par exemple, on parle de capteurs quantiques. Alors les capteurs quantiques, de ce qu'on m'explique, ce sont des capteurs qui auraient une précision telle que dans le sol, par exemple, elle pourrait distinguer, par exemple, s'il y a du pétrole qui se trouve dans le sol ou certains éléments chimiques avec une très 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 forte précision.
D'accord.
Donc autant dire que dans la course aux métaux rares ou dans la course au pétrole hein, qui continue, au gaz, etc., c'est quand même un élément de stratégique et de souveraineté extrêmement important pour les nations. Donc voilà, il faut mettre des moyens là-dessus.
Et puis il y a l'informatique quantique aussi.
Il y a l'informatique, donc l'ordinateur
qui est poussé par IBM, par
Google,
par Google aussi, bien sûr.
Et puis par les Chinois. Alibaba investit beaucoup dedans, Baidu, Tencent. Donc en fait, c'est une course mondiale pour l'informatique de demain et les ressources de demain. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire que la France arrive et met des moyens là-dessus. Et puis ça touche directement aussi l'armée, avec la sécurisation des communications, avec ce qu'on appelle la cryptographie quantique aussi, la sécurisation des contenus. Donc il y a beaucoup d'applications, même si c'est une technologie qui est complexe, C'est sur des états quantiques. Donc moi, j'ai du mal à saisir avec ce qu'on appelle l'intrication quantique, qui fait que, visiblement, une particule qui change d'état dans un endroit, et ben, une autre particule à un autre endroit change quasiment immédiatement, instantanément aussi, d'état. Donc, visiblement, ça a des implications extrêmement importantes.
Oui, bien sûr. Oui,
mais
oui.
Ça change absolument tout.
On se croirait dans un film de science-fiction, un peu. Hein, avec,
surtout pour, avec ce sujet. Pour nous, qui d'âme, qui ne comprenait pas grand-chose.
Voilà, c'est ça.
Oui,
ouais.
Effectivement.
Bon, ben voilà, Nicolas, tu veux nous dévoiler ta thèse sur le quantique?
On m'a toujours dit de ne pas me prononcer quand je ne sais pas, donc je ne sais pas.
Mais juste pour, enfin, en tout cas pour ce qui est l'informatique quantique, moi aussi je n'irai pas plus loin que toi concernant les explications, mais en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est qu'on se retrouve avec une puissance de calcul qui est exponentielle par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui.
Exactement.
Donc imaginez en fait les pas de géant qu'on pourrait avoir dans la recherche médicale, par exemple, dans la recherche scientifique.
Exactement, par exemple sur la simulation des molécules.
Tout à fait.
Ça c'est un des éléments dont il parle. Ou sur les changements climatiques, l'évolution du changement climatique à 5 ou 10 ans, ça prend beaucoup de paramètres, beaucoup de puissance de calcul, donc c'est des éléments qui peuvent être appliqués.
Voilà, sauf que ça n'existe, enfin, il y a des essais, enfin, on est plus dans du prototypage, voilà, un ordinateur quantique, en fait, en vrai, ça n'existe pas encore aujourd'hui. C'est plutôt dans les labos, etc.
Mais alors, IBM loue son ordinateur quantique à des tiers, notamment à des entreprises. Donc, effectivement, on n'est plus dans des bits, donc des 0 et des 1, comme on voit derrière, mais dans ce qu'on appelle des qubits.
Des qubits.
Voilà, donc c'est des bits quantiques, donc j'en dirai pas plus parce que j'en sais pas plus.
Bon, on y reviendra. Bien sûr, on va évoquer maintenant quelque chose de beaucoup plus concret qu'on aime bien, qui est plus ludique aussi. C'est Apple et les fuites concernant les prochains produits Apple. Et c'est Mark Gurman, qui est un spécialiste des fuites, qui, en tout cas, des rumeurs, qui a dévoilé pas mal de choses cette semaine.
Oui, on nous dit souvent qu'on parle beaucoup de fuites Apple, mais là, impossible de ne pas en parler parce qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de fuites. Accrochez-vous parce que Mark Gurman, en l'espace de quelques heures, il a révélé à peu près toute la line-up
toute la roadmap
à venir sur Apple en 2021, avec des détails toujours très précis. Il faut préciser une chose, ce garçon, c'est un journaliste qui a commencé sur le site spécialisé 9to5Mac, et qui aujourd'hui est la star des nouvelles technologies sur Bloomberg, et qui est réputé pour des sources vraiment infaillibles. Il a quasiment tout le temps raison.
Ouais, c'est incroyable. Comment arrive-t-il à avoir ces sources-là? Il a forcément des
à son niveau, c'est Apple, des sources internes, et c'est de très belles sources, ça c'est évident.
Ça,
pour le coup, c'est pas comme d'autres qui vont chez des fournisseurs. Lui, il a vraiment des sources chez Apple. Donc du coup, parlons de toute cette line-up.
Alors, on
va commencer par l'iPhone, parce que c'est peut-être le produit le plus grand public d'Apple. C'est assez rapide pour le coup, puisqu'on ne parlerait pas d'un iPhone 13, mais plutôt d'un iPhone 12S, après avoir comment Apple l'appellera. Et la nouveauté principale serait l'introduction d'un capteur d'empreinte sous l'écran, un peu comme sur la plupart des smartphones Android, très certainement un capteur ultrasonique d'ailleurs comme chez Samsung, et l'idée ça serait donc de vous permettre enfin de déverrouiller votre iPhone avec un masque, puisque votre doigt fonctionnerait, donc plus le problème de Face ID avec le masque.
Ce qui serait plutôt une bonne
idée. Ce serait une bonne chose, hein, parce qu'on galère quand même pas mal depuis
en espérant
depuis
que lorsque cet iPhone sortira, on n'ait plus besoin de masque, ce qui n'est pas sûr, mais on peut toujours rêver.
Mais bon, hein, c'est souhaitable.
C'est souhaitable.
Parlons maintenant des Mac. C'est là où il y a le plus de changements, à vrai dire. Le nombre d'informations qu'a obtenu Mark Gurman est juste phénoménal. Les MacBook Pro, ça sera peut-être les grosses vedettes de cette année 2021 chez Apple, avec deux nouvelles tailles, 14 et 16 pouces, avec à chaque fois un nouveau format. Ça sera un petit peu un design plus carré, peut-être un peu inspiré de ce qu'a fait l'iPhone. Mais surtout, ces nouveaux MacBook Pro avec de nouveaux écrans, ça sera un peu le mea culpa d'Apple, avec énormément de retours en arrière. En l'occurrence, la Touch Bar qu'on voit à l'image, vous pourriez lui dire adieu, paraît-il, que Apple a décidé de l'abandonner et de remettre des vraies touches de fonction.
C'est intéressant, parce que c'est quand même un aveu d'échec.
C'est un aveu d'échec. Maintenant, Apple a déjà fait un aveu d'échec avec le clavier.
Oui.
Ce qui prouve qu'ils sont capables, sur le Mac, de se remettre en question. Autre changement aussi, aujourd'hui, on n'a que des ports USB-C sur un Mac. Là, ça serait le retour d'autres ports. On ne sait pas lesquels. On peut imaginer peut-être que le port SD ou qu'un port HDMI, ce qui est beaucoup réclamé par les professionnels, reviennent sur les MacBook Pro. Et surtout, au niveau de la recharge, on aurait le retour du MagSafe. Ça, c'est très étonnant parce que l'USB-C, c'est quand même super pratique. Est-ce qu'on a vraiment envie de revoir un chargeur magnétique propriétaire? Pas sûr. Peut-être qu'Apple permettra de continuer à recharger en USB-C en plus du MagSafe. Mais l'idée serait donc du coup d'avoir ce câble qui s'enlève automatiquement quand vous marchez dedans. Donc c'est pas mal parce que ça permet de sauver votre ordinateur.
Qui a sauvé pas mal de MacBook quand même, cette histoire-là.
Je pense, en effet, c'était une des très bonnes idées d'Apple. Et le retour du MagSafe à travers un chargeur rond sur iPhone laisse entendre en effet qu'Apple aime encore cette technologie. Donc on va la revoir. Évidemment, bien sûr, ce MacBook Pro aurait des nouveaux processeurs Apple Silicon encore plus puissants que le processeur M1.
Donc petit à petit, l'abandon d'Intel.
Petit à petit, l'abandon d'Intel, ça va aussi se voir d'ailleurs sur l'iMac, qui aura son premier redesign depuis 2012, voire 2009 en fonction de votre manière de compter, puisqu'en 2009, ils sont passés à l'aluminium, et en 2012, ils sont passés en 16/9, mais ils ont conservé le même design. Mais ça fait quand même 10 ans quasiment avec le même design, c'est immense, il n'y a pas vraiment d'équivalent dans
la technologie d'écran avait évolué, mais le design, tu as raison, c'était le même.
Ah, c'était le même, c'est quasiment la même chose. Ils avaient perdu aussi le lecteur DVD, donc il avait été affiné, mais en réalité, c'est à peu près la même chose. Là, on passerait vraiment sur un nouveau design avec un écran beaucoup plus bord à bord, avec une inspiration sur le Pro Display XDR, vous savez, c'est cet écran Apple à 5 000 €. Donc du coup, on aurait quelque chose de beaucoup plus moderne. Même chose, passage sur un processeur Apple Silicon, c'est logique, donc l'iMac va aussi passer à ça. Et dernier ordinateur avec un nouveau processeur Apple Silicon, ça serait un Mac Pro Mini, c'est-à-dire qu'il aurait la forme d'un cube, un petit peu similaire au Power Mac G4 Cube qui était sorti il y a quelques années et qui avait marqué un petit peu l'histoire d'Apple. L'idée, ça serait donc d'avoir ça serait l'ordinateur le plus puissant d'Apple avec une puce Apple Silicon, une démonstration de force, parce que le Mac Pro classique, lui, aurait une nouvelle révision en 2021 avec une puce Intel. Ça sera sûrement la dernière année avec une puce Intel, mais Apple ne veut peut-être pas heurter les professionnels et veut leur laisser un ordinateur Intel, en tout cas un dernier, avant de faire la transition complète.
Emmanuel, chez Intel, il doit avoir des extincteurs partout là en ce moment, non? Parce que ça commence.
Le PDG a été viré.
Voilà. Donc effectivement.
C'est déjà un signe, ça va pas.
Il s'en va le 15 février.
Le 15 février, au revoir. Bon, il doit être soulagé quand même, je pense, parce que là, ce qui arrive, c'est pas terrible.
Alors en revanche, celui qui arrive est parce que lui avait plutôt un profil financier. Donc son successeur, c'est donc Pat Gelsinger, qui est un ancien d'Intel. Il est resté 30 ans. Ça a été le CTO d'Intel, donc c'est un ingénieur.
Oui. Qui va reprendre peut-être un peu la main sur la stratégie
et notamment sur le fait que Intel risque de ne plus tout faire en interne et de commencer à délocaliser une partie de sa fabrication sur les prochains processeurs, notamment sur tout ce qui est 7-5 nanomètres, chez des fondeurs et notamment TSMC ou Samsung. Le nom devrait être annoncé d'ici peu, ça serait un revirement historique chez Intel. Et puis surtout, on parle d'Apple, mais il faut savoir quand même au CES, alors c'est peut-être un signal faible seulement, mais au CES de Las Vegas, au CES de Paris, enfin d'où qu'on veut
Le CES mondial.
Il se trouve que Lenovo, le premier constructeur au monde de PC, a dévoilé des premiers PC fonctionnant avec ARM sous Windows, et HP a fait de même. Donc pour l'instant, c'est un appareil dans chacune des marques, mais il est possible que ARM fasse son entrée sur PC. C'est quelque chose dont on a entendu régulièrement parler, mais Windows fonctionnait pas très bien sous ARM.
Oui, parce que c'est pas la première incursion de Windows. On se souvient, les premières Surface étaient disponibles en deux versions.
Exactement.
Il y avait une version ARM qui a été un échec, un bide incroyable.
Ouais, ça n'a pas fonctionné.
Il n'y a pas grand chose qui marchait.
Mais on voit quand même les velléités. Apple peut entraîner élan, surtout avec ce qu'ils affichent comme autonomie de batterie, comme puissance. Ils pourraient entraîner le monde du PC derrière eux. Et alors là, pour Intel.
C'est que Microsoft commence à communiquer sur un Windows 10 X.
Oui.
Qui serait compatible aussi avec la technologie ARM. Là, on ouvre la boîte de Pandore. Ça veut dire que si ce Windows qui ressemble au Windows qu'on connaît et qui fonctionne sous technologie ARM, ça veut dire que demain, les constructeurs n'ont plus qu'à s'arranger soit avec Qualcomm, soit avec d'autres fondeurs pour.
Alors, le gros problème, c'est derrière. Tous les logiciels, tous les périphériques qui sont compatibles, donc Windows avec Intel, enfin le mariage Wintel, donc ça veut dire tout redévelopper. C'est vrai que.
Mais après, peut-être qu'on aurait de la. Comment dire, pas de la simulation, mais de la
traduction, émulation.
Voilà.
C'est possible. Moi, j'ai les émulateurs.
Aujourd'hui, il y a l'émulation sur Windows 10 en version ARM et elle n'est pas bonne. Justement, Apple, on parle beaucoup d'émulation, mais ce n'est pas de l'émulation, c'est de la traduction. C'est-à-dire que le code est traduit pour devenir une application ARM et c'est ce qui marche. Aujourd'hui, Microsoft ne fait pas ça. Maintenant, on imagine qu'ils ont vu ce qu'Apple fait et qu'ils vont vouloir faire pareil. Donc, c'est là où Intel va vraiment avoir des problèmes. C'est au moment où Windows sera aussi efficace que macOS avec une architecture.
Ce serait la fin du mariage Wintel, comme on dit, depuis longtemps. Et puis le dernier point, c'est le dernier bastion d'Intel derrière, c'est les serveurs. Mais là aussi, ARM commence à faire son entrée dans les serveurs, dans le côté serveur. Donc c'est vrai que pour Intel, ça
fait un peu peur.
Alors ils ont toujours 72% de parts de marché, etc. Donc ça, c'est toujours un monopole. Mais disons qu'il y a des signaux, quoi.
Allez, on enchaîne sur une actu un petit peu plus politique et donc le départ de Donald Trump, l'arrivée de Joe Biden. On ne va pas commenter cette information, mais en revanche, on peut évidemment revenir sur les dernières actions liées à la tech de Donald Trump. Je ne sais pas qui veut commencer, Nicolas, Emmanuel.
Allez, vas-y, Nico.
Et puis Emmanuel viendra en renfort si jamais.
Oui, alors de toute façon, les dernières actions de Donald Trump sur la tech, elles sont ciblées, c'est la Chine. Vous vous en doutiez, hein, c'est certainement ce qui
c'est
va,
pas nouveau,
ce qui va
hein,
marquer
ça fait deux
son
ans
héritage.
Que ça dure, hein.
Ça fait deux ans que ça dure, il a vraiment intensifié les tensions, on en a parlé dans cette émission dernièrement. On a parlé du fait qu'il avait essayé de bloquer l'investissement vers certaines entreprises, vers certains opérateurs télécoms. Il a banni WeChat Pay, il a banni certaines applications chinoises et il est allé encore plus loin dans ses derniers jours de présidence puisqu'il a inscrit Xiaomi sur une liste noire militaire, ce qui est très étonnant puisque Xiaomi est une entreprise grand public qui, à notre connaissance, n'a aucune activité militaire.
Et en plus, on l'a pas vu venir, cette histoire-là.
C'est vraiment une... En fait, moi, je résume ça un peu. Évidemment, en blaguant, on dirait quand même une entreprise qui fabrique des trottinettes, ce qu'on a mis sur une liste noire militaire. Et on l'a inscrite non pas comme une entreprise dangereuse, mais comme une entreprise communiste chinoise. Et ça n'a vraiment pas grand sens. Cette liste noire militaire, en tout cas, il y a un avantage pour Xiaomi, c'est qu'elle n'a rien à voir avec la liste commerciale sur laquelle est Huawei. Donc, c'est-à-dire que dans l'État, Xiaomi va pouvoir conserver les services Google, va pouvoir continuer à travailler avec Qualcomm. Donc tout ça, c'est assez rassurant. Maintenant, si Joe Biden ou la Chine n'arrive pas à trouver un moyen d'annuler cette action, Xiaomi, les Américains ne pourront plus investir dedans. Donc ça veut dire que beaucoup d'investisseurs de Xiaomi vont devoir abandonner et retirer en novembre prochain leur investissement. Et ça risque vraiment de freiner la croissance de Xiaomi. Donc c'est de nouveau un gros coup sur une entreprise chinoise dans le but de faire du mal à la Chine.
Emmanuel, ouais, le dernier coup d'éclat de Trump.
C'est ça, c'est le coup de pied de l'âne avant de partir. Après, effectivement, il va falloir voir si Biden reste sur cette logique ou s'il revient un peu en arrière. Pour l'instant, il ne donne pas vraiment de signe de retour en arrière.
Il n'y a pas de communication là-dessus. Ouais,
notamment sur Huawei. Est-ce que l'avenir sera plus clément aux US pour Huawei ou est-ce que finalement Joe Biden va rester sur cette ligne stricte?
Exactement, parce qu'avant de partir, il a aussi signé, il a empêché donc Intel de fournir des processeurs à Huawei. Donc il a encore intensifié la pression sur Huawei.
Et on sait que l'une des voies de croissance de Huawei, c'était aujourd'hui de fabriquer des PC. Nous, ici en France, ils poussaient les PC avec de nouveaux ordis plutôt jolis, et s'ils ne peuvent plus travailler avec Intel, alors il reste AMD.
Et tout ça n'est pas sûr.
Oui, mais c'est un Américain, donc ça revient au même.
J'ai discuté avec Huawei qui m'affirme que les licences qui ont été révoquées ne concernent pas la fourniture de processeurs. Donc il y a un peu, on ne sait pas exactement ce qui a été banni. En tout cas, il y a vraiment une volonté aussi de nouveau d'attaquer Huawei. Il a ordonné aux agences américaines d'enquêter sur l'utilisation des drones chinois et si possible d'interdire les drones chinois justement dans les agences américaines. Donc il y a vraiment... Donald Trump veut embêter la Chine avant de partir. Il veut aussi forcer Joe Biden à avoir ses dossiers devant lui et à pouvoir retirer. Et ce qui est intéressant, c'est que le nouveau secrétariat au commerce de Joe Biden a déclaré un jour avant l'investiture du nouveau président que les actions de Donald Trump allaient dans le bon sens vers la Chine. Donc ça laisse entendre que ça ne va pas du tout être facile et que ça ne va pas être un retour en arrière comme ça a pu être le cas avec d'autres actions.
On va terminer par nos QR codes que nous avons dans les applis tous anti-Covid, vous le savez. Cette appli va sans doute évoluer, pour nous permettre peut-être de, quand les restaurants réouvriront, on ne sait pas quand, de pouvoir s'y rendre de manière plus fluide, on va dire.
C'est ça. Dans l'idée aujourd'hui, tous anti-Covid, vous le savez, ça, on en a beaucoup parlé, ça a fait polémique, tout ça, ça fonctionne avec le Bluetooth. Et dans le futur, ça pourrait fonctionner avec les QR codes. L'idée du gouvernement est assez simple, ça serait que dans chaque commerce, vous ayez un petit code à scanner. C'est-à-dire que vous allez acheter des chaussures, vous allez au restaurant, vous allez au musée, partout où vous allez, il y a un code à scanner. Et ce code, en fait, vous permet de dire « je suis là à telle heure » et c'est enregistré de manière anonyme sur des serveurs.
Je rentre dans une boutique, dans un resto, je scanne.
Vous scannez. Exactement, c'est l'idée en tout cas de ce nouveau tous anti-Covid version QR code. Et en fait, l'idée que je trouve assez intéressante, c'est qu'il n'y aurait pas, comme dans tous anti-Covid, juste le « attention, vous avez été mis en danger, isolez-vous ». C'est qu'en fonction des lieux, le risque serait considéré comme modéré ou beaucoup plus élevé. Par exemple, vous allez dans un restaurant, on peut imaginer que vous n'avez pas de masque, ou alors vous allez dans un petit commerce avec une toute petite surface et pas d'aération, et bien si vous êtes notifié parce que quelqu'un se déclare positif au Covid, on vous dira attention, le risque est assez important, allez vous faire tester. Alors que si vous alliez dans un musée avec énormément d'espace, ou vous allez dans un centre commercial, eh bien on vous dira, ici le risque est modéré, mais dans le doute quand même, sachez que vous avez rencontré quelqu'un qui avait le Covid. Donc il y a vraiment cette distinction entre les deux choses. La question c'est, est-ce que ça sera vraiment mis en place à temps ? On parle d'une réouverture des restaurants et de certains commerces en avril, voire vers Pâques, donc ça risque de prendre un petit peu de temps et on ne sait pas trop où on ira.
Emmanuel, c'est sûr, cette appli va évoluer, c'est clair, pour qu'on puisse sortir de cette crise. On avait même parlé de vaccination, etc., de passeport de santé. Bon, ça, visiblement, c'est mis de côté pour l'instant. Oui. Ça pourra revenir sur le tapis, hein, aussi.
Bah, en fait, ça revient au cahier de rappel qui avait été mis en place chez les restaurateurs la veille du deuxième confinement, où on rentrait dans un restaurant et puis on mettait son nom, prénom, numéro de téléphone, et on était contacté si, dans la soirée, il y avait eu des cas contacts qui avaient été donc révélés quelques
jours
plus tard.
Sauf que c'était n'importe quoi. Enfin,
alors, tout le monde... c'était n'importe quoi, parce qu'effectivement, il y a des gens qui mettaient des faux noms. Oui, voilà. Les noms de stars, voilà, par exemple, ou des faux numéros de téléphone, etc. En revanche, le côté positif, c'est qu'on n'avait pas besoin de smartphone, donc les personnes les plus âgées qui ne sont pas nécessairement équipées, je dis bien pas nécessairement, parce qu'il y en a qui sont très bien équipées, mais certains ne le sont pas, donc il n'y avait pas de côté discriminatoire. Là, il va falloir que ça touche toute la population, donc que la population soit équipée de smartphone, d'un smartphone avec l'application, et qu'ils sachent en plus utiliser un QR code. Donc ça fait quand même trois niveaux de compétences technologiques.
Après, ce n'est pas forcément obligatoire.
Non, en tout cas, ça serait vivement recommandé. C'est de la même manière, les cahiers de charges, si je ne me trompe pas, étaient obligatoires dans les restaurants. Maintenant, je suis allé plusieurs fois au restaurant en cette période, je ne me rappelle pas qu'on m'ait demandé une seule fois de le remplir.
Ah, moi, j'ai rempli tout le temps. Ah, on me l'a tout le temps demandé.
Ah ouais, tout dépend peut-être des établissements aussi.
Oui, c'est ça. Sans du nombre de fois que tu vas au restaurant aussi.
Peut-être.
Ces dernières semaines.
C'est vrai que ça fait longtemps, là.
Ça fait longtemps. Restaurant. On ne sait même plus comment ça s'écrit. Bon, très bien, on suivra ça de près. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Nicolas.
Merci François.
Nicolas Lelouch, que vous pouvez retrouver sur 0net.com et l'Express bien sûr pour Emmanuel Paquette. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Et dans un instant, on va se replonger encore une fois, sans doute la dernière fois pour cette année 2021, dans ce CES virtuel avec Olivier Zrati. A tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01TV. BFM Business et 01TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Nous sommes donc de retour de Quoi je me mêle, à la fois sur 01TV, vous le savez, sur la chaîne YouTube de 01TV, sur la chaîne 01TV sur les box, et puis bien sûr sur 0net.com et sur BFM Business le dimanche matin. Nous allons poursuivre ce De quoi je me mêle avec, pour cette deuxième partie, un deuxième volet du CES 2021. La semaine dernière, on en parlait avec Dimitri Charitis, on faisait un point sur les nouveautés télé. Eh bien, cette fois-ci, on va prendre un peu de recul et s'intéresser un peu à l'ambiance et aux nouveautés, à l'innovation qui a été présentée lors de ce CES avec mon invité Olivier Ezrati. Bonjour Olivier.
Bonjour François, ça va ?
Oui, ça va. Le plaisir de te retrouver chaque année, à peu près à la même période, pour débriefer ce CES. Olivier est un expert en nouvelles technologies, un auteur aussi. D'habitude, depuis de très nombreuses années, tu nous proposes une espèce de condensé du CES. Enfin, quand je dis condensé, ça fait 300 pages, quand même.
Ça faisait entre 300 et 400 pages. Et cette année, j'ai décidé d'arrêter de le faire sous cette forme-là.
Mais tu continues, malgré tout.
Bah, j'ai quand même fait un compte-rendu d'une trentaine de pages sur mon propre site. Oui. Et même ce compte-rendu-là est assez dense par rapport à ce qui circule. Donc,
tout à fait.
J'ai très apprécié, finalement, d'avoir un résumé de 30 pages.
En plus, avec un CES particulier, bien sûr. C'est une première pour ce grand salon. D'habitude, on était tous au CES, donc à Las Vegas. Cette année, tout est en virtuel. Ton sentiment là-dessus, est-ce que ça a été un CES malgré tout ?
En fait, c'est un sentiment qui est à la fois partagé, mais qui n'est pas si négatif que ça. Mm-hmm. On pourrait dire, oui, effectivement, le format digital n'a pas très bien marché sur le fond. Il n'y avait pas de sérendipité, il n'y avait pas de... les rencontres avec les gens qu'on apprécie. On aime bien aller à Las Vegas au début janvier parce que c'est après la période des fêtes où on ne voit personne, à part la famille. Donc on voit du monde. Et on voit beaucoup d'innovations, on peut les toucher, on peut les entendre, on peut les voir, notamment les grands écrans. Là, il n'y avait pas de tout ça.
On peut rencontrer des gens, on peut poser des questions.
Voilà. Mais malgré tout, je trouve que cette édition a réussi le pari de la visibilité. Il y a eu suffisamment d'innovations intéressantes présentées par les grandes marques en particulier et quelques start-up. Les médias américains, je trouve... qui font un peu donnent un peu le là, ont plutôt bien relayé, ils ont bien joué le jeu, alors que ce n'était pas le cas des salons virtuels passés. Le Web Summit, personne n'en a entendu parler. L'IFA, il me semble qu'en septembre, ça n'a pas eu d'écho.
Non.
Donc finalement, si on regarde le verre à moitié plein,
c'est pas si mal que ça.
Oui, pour un CES qui a été fait évidemment dans l'urgence, enfin dans l'urgence en tout cas, avec des outils totalement différents. Hein. C'est vrai que tout était en vidéo, avec des webinars, enfin des présentations qui étaient calibrées. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce CES était inspiré par le Covid, parce que forcément, les industriels, les géants de la tech, mais aussi les startups, ont proposé des innovations qu'ils n'auraient sans doute pas proposées si on n'avait pas eu cette pandémie.
Et d'ailleurs, dans pas mal de cas de figure, qui étaient des innovations qu'on peut qualifier d'incrémentales, qui étaient des petits ajouts de petites fonctionnalités qu'on va voir, qui permettaient de mieux s'adapter à la vie à la maison. Et finalement, le leitmotiv que j'ai entendu dans plusieurs présentations, c'était que finalement, l'offre devenait une offre pour à la fois vivre sa vie personnelle et travailler chez soi, quels que soient les outils ou les moyens nécessaires. Mmh. Donc il y a une espèce de recentrage sur le domicile, et à partir de là, bah, tu peux faire plein de choses dans les objets connectés, dans l'informatique, dans les smartphones, dans les capteurs, enfin tout peut y passer quoi, la robotique même.
Voilà. On va parler bien sûr tout à l'heure des produits un peu étonnants, insolites, on parlera aussi automobile, mais on va commencer donc par ces produits qui ont eu un impact totalement différent à cause du Covid. Tu nous as fait une petite sélection.
Hein. Tout à fait.
Qu'est-ce que tu as remarqué donc?
Bah, je crois qu'on peut commencer par les ordinateurs tout simplement. Ouais. Hein. On passe quand même la journée à faire des zooms ou visioconférences équivalents. Et les constructeurs de PC se sont rendus compte, alors que les grands utilisateurs comme moi râlaient depuis longtemps, que les caméras étaient pas de bonne qualité dans les laptops. Et donc, les grandes marques, je pense Dell, Lenovo, HP, bah, ils ont sorti tout un renouvellement de leur gamme. Alors certes, avec les nouveaux processeurs d'Intel qui sont plus rapides, comme chaque année, mais avec des caméras Full HD, donc haute définition.
Alors qu'avant, on n'avait pas. Alors,
on n'avait même pas ça.
Certains PC haut de gamme, on avait ça.
C'était très rare.
C'est très rare.
J'ai cherché. Mm-hmm. Trouver une caméra qui n'était pas 720p, comme on dit, donc une résolution intermédiaire, c'était extrêmement difficile, même pour le Macintosh, même
surtout
pour les MacBook.
Pour les Mac, hein, on sait que la plupart des caméras sur les Mac...
C'était pas pire sur les Mac que sur les PC. Mais en gros, ils se contentaient de mettre des caméras basse définition. Et c'était un vrai scandale. Parce que la moindre caméra frontale dans un smartphone
est
de meilleure qualité, même dans un smartphone qui coûte 150 euros. Quoi.
Ça.
Donc c'était hallucinant de voir que les constructeurs ne faisaient pas cet effort-là. Bon, ils l'ont fait, ok. Donc toutes les gammes ont été mises à jour, en tout cas par le haut de gamme.
Tous les constructeurs s'y sont mis. Ouais. Apple aussi, à ton avis, va réagir, parce qu'Apple est toujours silencieux, hein, au CES, ne présente rien.
En général,
rien.
Ils font ça un an après les autres,
voilà, c'est ça.
Pour ce genre d'évolution.
Mais on peut imaginer que la prochaine génération de Mac...
Normalement,
apportera des caméras de meilleure
normalement,
qualité.
Normalement, oui, et ce d'autant plus que les caméras dans les laptops peuvent être miniaturisées, puisqu'elles reprennent la technologie qu'on a dans les smartphones. Mmh. Donc c'est les mêmes technos.
Il suffit de prendre les mêmes composants.
Alors on a vu d'autres innovations quand même aussi, c'est les outils pour la visio.
Alors juste une chose concernant le son. Est-ce qu'il y a eu des innovations aussi concernant le son sur les laptops?
Un petit peu. Il y a certains laptops qui ont 4 micros maintenant pour avoir une captation spatiale un peu meilleure. Il y a le son côté diffusion avec, on a du Harman, on a tout un tas de Bose, du Harman qui est intégré dans les laptops pour mieux entendre. Mais enfin, quand on est en visio, il vaut mieux prendre des écouteurs, sinon ça marche pas très bien.
Oui, c'est
donc voilà, paradoxalement, la partie audio pour l'émission du son du laptop, elle est plus pour les loisirs que pour le travail. Et c'est plutôt pour la captation que c'est important pour le travail. Donc, les deux ont évolué en parallèle. Alors, il y a des évolutions intéressantes aussi sur les outils de captation dans des salles de réunion, parce que les entreprises, quand même, travaillent encore ensemble. Et donc, on a maintenant des systèmes de captation. Alors, il y en a qui viennent de Logitech, il y en a qui viennent de tout un tas de constructeurs plus ou moins connus, qui captent à 360 degrés, comme celui qu'on peut voir là, mais bon, sauf pour ceux qui sont à la radio.
Voilà, c'est vrai qu'on voit une espèce, on dirait une petite enceinte,
ça ressemble à une enceinte
connectée un peu longue.
Voilà. Ça ressemble à une enceinte à Amazon Alexa, en verticale, et qui contient en fait une caméra 360 degrés qui est en haut, qui va filmer tout le monde, et qui, couplée à des micros directionnels, va être capable de détecter qui parle pour l'afficher correctement. Et dans certains cas, c'est complété par des systèmes qui sont capables de faire le transcript, c'est-à-dire de capter l'audio, et de le transformer en texte pour faire le compte-rendu de la réunion.
C'est top, ça.
Et ça, c'est top. Alors, ça ne marche pas très bien, parce que capter la voix et la transformer en texte, c'est approximatif, mais c'est très utile.
Et ça se branche sur un PC, tout simplement.
Il y en a qui fonctionnent de manière autonome.
D'accord. Mais c'est compatible Teams, c'est compatible Zoom,
alors,
Google Meet, tous ces trucs-là.
C'est associé à un logiciel de visio propriétaire. Et dans d'autres cas de figure, ça se connecte à des logiciels de visio du marché. Donc, tu as les deux cas de figure. Tu en as d'autres, c'est des caméras 8K. J'ai trouvé des systèmes.
Et ça sert à quoi du 8K, là?
Le 8K, c'est parce qu'après, tu peux cropper, c'est-à-dire découper un bout d'image dans l'image.
Tu peux zoomer, en fait.
Voilà, pour zoomer, etc. Donc, il y a beaucoup de créativité dans ce domaine-là. Là, G5 Create, une sous-marque de je ne sais plus quel pays, probablement chinoise, propose des webcams 4K. Bon, alors le problème des webcams 4K, c'est très sympa, mais si tu branches ça sur Zoom, Zoom, il va descendre ça en 720p.
Ben oui.
C'est le truc qu'il faut savoir. Malheureusement...
Et puis, c'est surtout la taille du tuyau. C'est-à-dire que si on a un upload qui est en ADSL... La 4K,
mais c'est pas que la taille du tuyau, parce que moi j'ai de la fibre à la maison,
ouais.
Et j'ai beau avoir de la fibre, quand j'ai mis en zoom, il me comprime tout, mon Full HD en 720p.
C'est-à-dire que tous les outils de vision ne sont pas prêts à monter en Full HD ou en 4K, c'est ça ?
Ils pourraient, mais le problème aussi, c'est que plus tu augmentes la résolution, plus tu augmentes la charge dans l'ensemble des tuyaux, et tu augmentes aussi la charge du côté des data centers. Donc quand tu es un fournisseur de services, dont en plus qui est en freemium, dont une partie est gratuite, t'as peut-être pas envie de consommer trop de bandes passantes, consommer trop de ressources chez les CDN, comme on dit, les Akamai et compagnie. Donc, tu es obligé de faire un peu gaffe à ça. Donc, tu as une réduction de la qualité. Ça, c'est un autre exemple, un système waterproof, encore 8K.
Tu veux faire des réunions dans la piscine, c'est ça ?
Voilà, y a des gens qui font aussi ça à l'extérieur. Hein.
Ouais.
Y a des gens qui captent de la vidéo à l'extérieur, qui veulent la diffuser avec des lunettes de réalité augmentée. Ça sert aussi à ça, ce genre de
caméra. Après, ces outils peuvent aussi servir pour les youtubeurs, hein, puisque ça filme
tout
en 4K ou en 8K. Là, sur YouTube, on peut monter à des résolutions plus élevées. Hein.
Mais là, j'aurais tendance à dire que ces caméras pour l'extérieur, elles sont plutôt de l'ère post-Covid, on va dire, parce que on sort pas beaucoup en
non,
ce moment.
Ça, c'est clair.
Et d'ailleurs, c'est un élément intéressant qu'on voyait pas encore trop au CES, mais c'est voir comment les marques se préparent à l'après. Parce qu'il est clair qu'on va en sortir de cette pandémie. On ne sait pas trop quand exactement, mais on va en sortir. Or, le business d'après, il sera encore plus important que le business d'aujourd'hui, parce que le business d'aujourd'hui est temporel, il dure un an et demi. Alors certes, les entreprises vont continuer à faire du télétravail, les gens vont s'habituer à ça. Enfin, les gens, ils aiment bien aller dehors, ils aiment bien
évidemment
parler avec des vrais gens. Donc, on va revenir à des outils plus traditionnels qui vont s'améliorer pour les usages d'avant, en fait.
Et on le sentait, il y avait un frémissement de ce post-Covid lors de ce CES.
Je ne l'ai pas vu. Mais peut-être que
ça ne va pas tarder à arriver.
Je ne l'ai pas vu. Si, dans les transports. Les transports électriques, les vélos électriques, il y en avait quelques-uns qui étaient présentés.
On parlera d'automobile tout à l'heure.
Il y a pas mal d'autres gadgets qu'il faut évoquer sur le Covid. Hein.
Oui, alors on va en parler.
Il n'y a pas que les PC.
Là, on a fini les PC.
On a fini les PC, voilà, les caméras, oui.
Ce qu'il faut retenir, c'est que, étant donné qu'on fait plein de réunions en visio, la caméra s'améliore, les micros s'améliorent, etc. Et la puissance des PC aussi. Hein. Il faut voir si le prix s'améliore aussi. C'est pas forcément le cas.
En général, mais bon.
Ouais, oui, ça c'est clair. Et donc, pour rester dans le Covid, et durant ce CES, on a vu pas mal de robots aussi, désinfectants, des choses incroyables, assez spectaculaires.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de la gamme des innovations incrémentales, ou de repositionnement de produits existants. Tu te rappelles de ces robots avec des tablettes qui circulent dans les allées, qui servent à faire du renseignement pour les passagers dans un aéroport ou les clients dans un centre commercial. Eh bien, ils ont remplacé la tablette et le support de la tablette par des lampes UV et UVC, alors notamment chez LG qui présentait ça, et une société chinoise qui s'appelle Ubitech, qui fait des robots de ce type-là. Et ces UVC, qui sont en fait à base de néon, qu'on appelle des lampes à excimer, eh bien, ils sont capables de désinfecter, y compris au niveau du Covid, des lieux publics. Alors ça peut être une salle de classe, une salle de chirurgie en hôpital, ça peut être un magasin, ça peut être chez soi. Alors chez soi, c'est peut-être pas évident parce que ce genre de robot ne doit pas être donné, mais en tout cas, c'est vraiment à la fois très pratique, très utile. Et ce n'est pas du pipeau d'un point de vue technique.
Mais alors, comment ça marche, Olivier ? C'est-à-dire que ces rayons UVB, c'est ça ?
Non, c'est quoi ?
C'est UVC,
ouais.
se propage en fait dans la pièce et tue les micro-organismes.
Il tue un certain nombre de micro-organismes, dont le virus du Covid.
D'accord. Ah oui, si vous êtes avec nous en vidéo,
prouvé,
on vous comprend bien.
C'est prouvé par des études. Par contre, il faut vraiment que la lampe émette dans l'UVC. Alors, les ultraviolets, on sait que c'est la lumière non visible qui est après le bleu dans le spectre électromagnétique. Et il y a l'UVA, qui est le plus proche du bleu, puis l'UVB, qui sont les rayons qui servent à bronzer en général. Hein.
Ouais.
Et puis après, il y a l'UVC. Et l'UVC, il est à très haute énergie, parce qu'il est plus loin, proche des rayons X. Et donc, il faut des lampes plus puissantes pour faire ça. Et on ne sait pas le faire avec des LED, par exemple, aujourd'hui, ça.
D'accord.
On est obligé de faire appel à des néons qui ressemblent à ça.
Néons,
il y a des
d'accord.
gens que je connais d'ailleurs, qui sont à Grenoble, entre autres, qui travaillent sur des LED qui permettraient d'émettre des UVC, mais ce n'est pas encore au point. On ne sait pas le faire, notamment avec un bon rendement énergétique.
Parce que l'idéal à terme, alors espérons qu'on sorte vite de cette pandémie et qu'on n'en ait plus d'autres avant quelques années, ça serait peut-être de remplacer toutes nos ampoules par un système un peu...
Pourquoi pas, mais
qui ferait les deux, c'est-à-dire qui nous procurerait de la lumière et qui en plus pourrait être envoyé des UVC.
Oui, mais on n'a pas forcément envie d'envoyer les UVC quand les gens sont là. Donc
c'est ça le problème.
J'en suis pas certain d'ailleurs, mais il faudrait vérifier. Mais
est-ce que
ça a
un impact sur la peau, par exemple, ou sur le
Je crois pas, mais il vaut mieux éviter que les gens soient là, il me semble, parce que c'est des rayons assez énergisants, donc on évite en général les rayons énergisants. En tout cas, dans toutes les images qu'on voit quand on voit des démonstrations, c'est souvent fait dans des pièces qui sont...
Oui, dans des pièces qui sont vides, d'accord.
Alors, il y a d'autres solutions dites Covid qui étaient présentées au salon, c'était tout ce qui était lié au masque. Donc le masque chirurgical bleu qui nous embête depuis longtemps, il évolue pas mal. Tu as des masques maintenant qui contiennent des micros. Il y en a d'autres qui contiennent des filtres.
Des micros pour réamplifier ce qu'on dit ?
C'est quand même mieux d'avoir un micro dans le masque qui t'écoute directement qu'un micro qui est à l'extérieur du masque avec ton son qui est atténué.
D'accord.
Donc c'est bête. T'en as qui intègrent même l'écouteur. Donc tu mets sur les oreilles, t'as les écouteurs.
C'est un masque casque Bluetooth. En fait.
Voilà, exactement. Alors t'en as d'autres qui contiennent carrément un ventilateur. Et j'en ai même trouvé qui était transparent. Comment tu fais un masque transparent ? Tu mets un ventilateur sur le côté qui va faire circuler l'air pour que tu puisses quand même respirer. Et le reste est transparent.
D'accord.
On a même vu qu'il y avait des casques de montagne, enfin des casques qui couvraient toute la tête, entièrement transparent, avec des filtres sur le bas. Bon, c'est un peu exagéré là, évidemment. Mais il y a beaucoup de créativité, je trouve, surtout venant d'Asie, hein, les Chinois, les Coréens.
Il y a notamment une start-up française qui a mis au point un masque, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui ressemble à celui que vous êtes en train de voir.
C'est
si la avec société
Bisrapide qui propose un masque. Je crois que c'est un masque qui contient...
Il n'y a pas de ventilateur, c'est une espèce de VMC à l'intérieur. Donc il y a des obturations qui permettent à l'air de circuler et ça serait très efficace. Alors évidemment, quand on met ça, on a l'impression d'être Dark Vador, hein, forcément.
Tu as un autre appendice qui a été inventé, c'est de rajouter des capteurs de qualité de l'air aussi. Parce que quand tu mets des filtres, tu peux mettre des capteurs type objet connecté qui sont capables d'évaluer la qualité de l'air. Donc ça peut permettre de te prévenir quand il faut changer le filtre, par exemple.
C'est dingue.
Donc voilà, c'est de la technologie. Alors, il est clair que ces produits-là ne vont pas forcément avoir une diffusion massive comme le masque chirurgical de base, mais un certain nombre d'utilisateurs, notamment dans les villes très polluées ou dans les villes où il y a beaucoup de circulation, beaucoup de transports en commun, ça va peut-être générer un usage, on verra.
Oui, peut-être, mais sans doute, en tout cas c'est sûr, il y aura un avant et après Covid concernant les masques, ça c'est certain.
Oui, mais c'est trompeur, faut savoir qu'en Asie, le port du masque est courant depuis très longtemps.
Oui,
ils ont eu d'autres pandémies avant, ils ont eu le SARS, etc., il y a quelques années. Donc en fait, tu vas au Japon, tu vas en Chine, qui est d'ailleurs très pollué par ailleurs, tu vas en Corée, les gens ont l'habitude de porter des masques.
Mais la plupart des touristes asiatiques, quand il y en aura, on les voit, même ici, en France, ils ont leur masque.
Donc le post-Covid continuera à donner lieu au port du masque en Asie, ça va probablement se réduire en Europe, on va revenir à la normale, mais en Asie, ça restera un marché important. D'où l'intérêt d'avoir des innovations qui traversent le Covid et qui lui survivent, en fait.
Bon, alors, tu portes pas de lunettes, mais c'est vrai que quand on a des lunettes et avoir un masque... Ah oui, tu as des lunettes.
J'ai des lunettes quand même.
Mais tu les portes
pour lire.
Tout le temps aussi
pour lire,
voilà,
juste
c'est ça.
Lire, oui.
Mais alors, moi qui porte des lunettes tout le temps, le gars qui trouve la belle innovation parfaite, pas bullshit, qui permet d'enlever la buée, ça serait vraiment top.
Il faut mettre un petit ventilateur. Non, il faut souffler vers le bas, comme ça.
C'est pas évident.
C'est pas évident.
On est bon pour les robots, anti-Covid. Après, il y a des robots aussi qui désinfectent le sol, qui envoient des produits. Enfin, j'ai vu des.
Il y a un robot qui vide la vaisselle aussi, et qui le remplit chez Samsung.
Oui, on a vu ça aussi.
Mais
bon, ça c'est un gadget.
Ça marchera jamais.
Voilà.
Enfin, au sens, c'est un truc pour des démos, mais c'est pas fait pour être commercialisé. Samsung, ils sont très forts tous les ans.
Oui.
Tu te rappelles, hein,
mais bien
tous les
sûr.
Ans, ils nous présentent quelque chose qui a l'air extraordinaire, mais qui est jamais présent.
Et qui fait le buzz. Tout le monde
Bolli,
en parle.
Tu te rappelles de Bolli, la petite balle, robot, disparu. Néon, les avatars 3D, les avatars en grandeur réelle, disparu.
Et pourtant, ça a fait l'événement l'année dernière.
Les ans, il y a un phénomène comme ça.
Mais ça fait partie du charme du CES.
C'est le charme de voir des tests. En fait, c'est des ballons d'essai.
Mais tout à fait.
Le CES, c'est le laboratoire de la visibilité de ballons d'essai, en fait. C'est que les grands constructeurs montent des choses, ils disent, tiens, bon, est-ce que les médias vont en parler ? Est-ce qu'il y aura...
Est-ce qu'il y a une appétence sur ce sujet ?
Est-ce qu'il y a une appétence ? Est-ce que les gens sont prêts à payer ?
Ça me fait un peu penser aussi, tu sais, au salon de l'auto et aux prototypes que font les constructeurs. Ils proposent des véhicules. On va voir un peu comment ça réagit. Pour l'instant, on dit que ça n'existe pas. Et puis, s'il y a un bon retour, on va peut-être travailler à l'élaboration d'un véhicule qui ressemblera à
c'est
ça.
C'est du marketing, en fait.
Mais
c'est
bien
du marketing, c'est un focus group géant, en fait.
Ça. Mais ça, c'est compliqué de faire en virtuel, tu vois, par exemple.
Cette année, c'était moins bon.
Moins bon.
Tu peux quand même mesurer l'écho dans les réseaux sociaux. Il y a des outils. Il y a une société française qui a fait tout un bilan du CES pour voir quels étaient les sujets qui émergeaient, les marques qui émergeaient. Ça peut se mesurer quand même.
Les smartphones avec... c'est pas le moment du smartphone, le CES de Las Vegas.
Détrompe-toi.
En théorie, il y a le Mobile World Congress.
Mais comme il est annulé, il est déplacé au mois de juin, ça l'a été.
C'est ça.
Samsung a quand même annoncé son Galaxy S21.
C'est vrai.
D'habitude, ils le font en février ou mars. Donc finalement, il y a eu un retour en janvier des annonces qui était souvent
un décalage
alors qu'elles étaient plus tard. Tous les Chinois ont annoncé de nouveaux modèles. Et alors le phénomène de cette année, c'est clairement la démocratisation de la 5G. Et d'ailleurs, ça vient d'annonces qui sont antérieures au salon, qui sont les annonces de Qualcomm, notamment une médiathèque,
avec
qui sont les fournisseurs du chipset, c'est-à-dire le processeur du smartphone,
oui,
qui est de plus en plus puissant, qui gère notamment l'intelligence artificielle avec plus de puissance de calcul et qui intègre maintenant le modem 5G. Et ce qui est phénoménal, c'est de voir que, par exemple, chez Qualcomm, qui est un des leaders mondiaux du domaine, eh bien, ils ont intégré la 5G dans des chipsets d'entrée de gamme. Il y en a un qui s'appelle le 480, je crois, qui a été annoncé pendant le CES. Bah, il va se retrouver dans des téléphones à moins de 250 euros dans l'année. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant 2021, et d'ailleurs y compris les annonces du CES, tous les nouveaux smartphones qui vont arriver,
vont
y compris
5G.
Moins de 250 euros,
c'est
vont
formidable.
Être 5G.
D'accord.
Et ça va faire une traînée de poudre dans l'adoption de l'utilisateur qui, à la limite, ne se posera même pas de questions.
Mmh.
Quand tu vas dans un magasin en France, tu as aujourd'hui la moitié du linéaire qui est déjà en 5G. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans 4-5 mois, tu auras 80% du linéaire en 5G.
Avec la locomotive Apple, hein, qui...
Et voilà, Apple qui s'y est mis, heureusement, voilà, un peu tardivement, d'ailleurs,
après Samsung, mais...
Huawei, etc.
Ouais, c'est clair.
Et tu as évidemment des évolutions sur la photo, qui s'améliorent de plus en plus. Hein, les caméras qui sont de plus en plus nombreuses, meilleure résolution, meilleure qualité d'image, notamment en basse lumière. Ouais.
Toute la data, toute l'intelligence derrière le traitement de la photo aussi, qui évolue.
Ouais, alors moi, c'est, d'ailleurs, personnellement, c'est mon premier facteur de renouvellement de smartphone. C'est la photo.
C'est la photo.
Bah, je suis photographe, pareil.
Mais oui, aussi, donc, bien sûr. Mais c'est intéressant. Tu as quoi comme téléphone, perso ?
On a le droit de le dire.
Mais bien sûr, tu dis ce que tu veux.
J'ai un 12 Max Pro récent.
Voilà, avec
une coque, et une tuerie, parce que c'est une coque, tu peux protéger le...
Waouh, la classe.
Tu peux protéger la lentille qui peut s'abîmer. Donc voilà, il y a un petit anneau pour le porter, pour les selfies.
Le gadget d'Olivier.
Voilà,
c'est l'inspecteur gadget un peu,
la
Olivier.
La révélation.
Alors après, il y a eu des bon, donc la 5G évidemment, mais aussi des form factors intéressants en matière de smartphone, notamment chez LG qui a présenté alors un prototype de téléphone qui se déroule.
Tout à fait.
Et moi, je trouve ça mais formidable. Autant le pliant, ça me fait pas rêver. Enfin, c'est beau, mais je vois pas trop l'utilité. Alors que l'idée d'un smartphone qui se déroule, je trouve que c'est pertinent.
Alors, il y avait une autre marque, j'ai oublié laquelle, c'est pas Lenovo qui présentait ça aussi ?
C'est Oppo. Oppo
a présenté. Voilà, c'est Oppo.
En fait, et TCL aussi.
C'est très intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que, bah, d'abord, c'est fascinant d'avoir un écran qui s'enroule. Et la deuxième, c'est que ça prend moins de place.
Mm.
Parce qu'en fait, tous ces écrans qui sont pliables, qui ont été présentés l'année dernière, hein, et même il y a 2 ans avec Royole, qui avait présenté ses premiers modèles,
bien sûr.
Bah, quand tu plies un téléphone en deux, il fait une double épaisseur. Alors, tu remplaces la longueur par l'épaisseur. Dans une poche, c'est pas toujours pratique, hein, d'avoir un truc plus épais. Et là, bah, tu perds pas forcément en épaisseur, parce que l'enroulement occupe moins de place.
Mmh.
Donc c'est séduisant. Par contre, je demande à voir la solidité,
ouais,
physique,
c'est ça.
Parce que je suis pas sûr de ça. Pour l'instant, on voit des prototypes, je voudrais vraiment le voir. Alors que bon, on a pu tester les clapets chez pas mal de marques, hein, notamment chez Samsung, qui a le Fold, il s'appelle comment
Le Fold.
Le Fold, hein, qui, ouais, se plie qui est un clapet, qui se plie comme ça, qui se plie verticalement.
Le vertical, c'est Z Flip, et le Fold, c'est l'horizontal.
Qui est plus grand, qui est beaucoup plus grand. Alors, eux, ils ont l'air d'être assez solides, ils ont amélioré la qualité de l'écran, ils ont mis une couche de verre pour qu'il soit un peu plus solide et qu'il ne se raye pas et qu'il ne se casse pas. Et là, bon, bah, on a des protos, on va attendre un an. Hein,
ouais, c'est clair.
En fait, moi, je suis un peu sceptique sur ces formats-là, parce que j'ai l'impression que ça crée une telle diversité de formats d'écran que ça va perturber les développeurs d'applications. Ils vont être obligés de supporter tout un tas de formats différents. Il y a aussi le LG en T, hein, qui a un écran horizontal qui est au-dessus d'un
LG
écran carré.
Wing.
Voilà. Bon.
Ouais.
Donc.
Voilà, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils avaient un peu fumé, les ingénieurs, avant, non ?
Ouais, ils ont besoin de fumer parce que ils cherchent des sources de croissance. Ils ont besoin de pousser les gens à renouveler leur téléphone.
Ouais.
Voilà. Bon, mais je pense que le bon téléphone 6 pouces et quelques
traditionnel,
ça va continuer.
Ouais, ouais, c'est clair. Bon, on verra. Moi, je trouve que l'enroulable, ça peut être. C'est vraiment une idée séduisante. On verra bien. Allez, il nous reste 5 minutes pour parler de l'automobile.
Oui.
Historiquement, depuis pas mal d'années, le CES est le salon où les constructeurs auto aiment se présenter. Et cette année, ça a été encore le cas ?
Oui, mais à distance.
Donc, mais à distance.
Avec de jolies vidéos, de jolies démonstrations. Mais il y a quand même eu pas mal de choses intéressantes. La présentation qui m'a le plus marqué, c'est celle de General Motors, qui est quand même une vieille entreprise, hein. On ne peut pas dire que c'est le Apple de l'automobile, quoi. C'est pas Tesla. Bah pourtant, ils ont montré des choses qui étaient pas mal. Alors, ils ont montré qu'ils électrifiaient leur Hummer. Ils avaient annoncé ça pendant l'année 2020. Alors, on va se dire, bon, c'est pas très green, un Hummer électrique, mais bon, c'est quand même électrique. Et en fait, leur Hummer, comme l'ensemble de leur future gamme électrique, vont s'appuyer sur une nouvelle technologie de batterie qui a l'air intéressante. C'est pas la seule innovation dans les batteries, mais c'est une batterie qui remplace le cobalt par de l'aluminium. Et il se trouve que le cobalt, c'est une ressource rare et polluante, et l'aluminium l'est un peu moins. Et donc, ça permet d'alléger les batteries, ça permet aussi de les rendre plus compactes. Et au lieu de mettre des batteries dans des cylindres, qui est la technique classique aujourd'hui, ils la mettent à plat. Résultat, il y a une meilleure occupation du volume et ça permet d'avoir une meilleure densité énergétique des batteries, donc des batteries toutes plates mises côte à côte.
Chouette.
Et à la fin, bah, ça t'augmente de 40 à 60% ton autonomie de véhicule. Et donc, ils ont annoncé que leur véhicule électrique, quelle que soit la gamme, dépasserait, disons, il y aurait entre 500 et 900 km d'autonomie. C'est quand même sympa.
Oui. Moi, 900 km, ça commence vraiment à être
bien. Mon repère pour voir si on peut faire Paris-Nice ou Paris-Perpignan en voiture.
Bon, après 900 km, il faut voir dans quelles conditions, à mon avis, tu ne fais pas 900 km à 130 km/h sur autoroute.
Pas en vrai.
Mais là, on sent que dans on va dire, l'autonomie des batteries, la capacité, là, on va avoir une rupture. Elle est presque là. Quand on voit qu'on a Nahua Technologies, qui est une boîte qui est à Aix, qui est en train de. Enfin, qui est très. Prometteur dans ce domaine-là, on se dit qu'on va avoir dans les années qui viennent encore une rupture, non ?
J'aurais tendance à dire qu'on espère des ruptures, mais pour avoir étudié la question l'année dernière, le rapport du CES 2020, je me suis rendu compte que le progrès était quand même plutôt lent parce que la chimie, c'est compliqué. C'est très difficile d'optimiser une batterie. J'ai eu l'occasion d'ailleurs cet été de visiter un des laboratoires dans le domaine qui est le laboratoire du LITEN, qui est une branche du CEA à Grenoble. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué d'optimiser les matériaux, d'optimiser notamment la manière dont les ions lithium sont captés par les cathodes. C'est très compliqué. D'ailleurs, l'IA et l'informatique quantique jouent un rôle pour optimiser les batteries comme outil de travail pour trouver des combinaisons de matériaux. Mais on est plutôt dans l'innovation incrémentale encore.
Mais je me dis qu'il y a tellement d'argent derrière et que en fait, celui qui arrivera et qui révolutionnera en fait, le stockage, il y aura un tel jackpot pour lui qu'à mon avis, il doit avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements dans ce domaine.
Il y a beaucoup d'investissements, mais contrairement à ce qu'on croit, et d'ailleurs c'est vrai pour l'IA, c'est vrai pour le quantique, elle ne viendra pas d'un seul endroit. Il n'y a pas juste une boîte
qui va faire un truc extraordinaire.
Ouais. La recherche, elle est mutualisée. Il y a beaucoup de recherches collaboratives, comme dans tous les secteurs d'activité.
Il y a plein de bonnes idées un peu partout.
Les mêmes idées circulent au même endroit un peu partout. Moi, quand je regarde une recherche qui existe en France, il y a la même aux États-Unis, la même en Allemagne, la même ailleurs, la même en Asie. Donc non, il n'y aura pas une seule boîte qui va révolutionner tout, quoi.
Bon, et les drones alors ? Les drones autonomes ou volants perso, c'est quoi ? C'est toujours n'importe quoi ? Ou est-ce que petit à petit, on se rapproche de quelque chose qui va vraiment exister ?
C'est une grande question. Moi, je fais partie un peu des sceptiques sur pas forcément sur l'existence des appareils ou même leur capacité à voler. Je suis plus sceptique sur notre capacité à les déployer réellement. Parce que c'est compliqué d'un point de vue pratique. Ce que j'en vois, c'est que tous ces projets-là, à l'instar de celui de Cadillac, qui était présenté pendant le salon, c'est des projets de transport de luxe, en fait. Ce n'est pas du transport pour tout le monde. C'est des transports dont le coût énergétique par passager est très élevé. Ça prend de la place. Il faut une station d'accueil, un point de départ, un point d'arrivée. Ça prend du volume, ça prend de la place, ça prend de la place dans les airs. Et la place dans les airs, elle n'est pas infinie. Donc Cadillac, si tu veux, qui présente un véhicule à une place et quatre hélices, ça ne tient pas la route.
C'est pour faire le buzz, on est d'accord.
Alors, moi, je peux te décrire le modèle économique de ce genre de truc. Le modèle économique, c'est le modèle économique des agences de design qui sont derrière, qui font des propales,
et qui gagnent beaucoup
d'argent, mais qui ne sont jamais construits.
Ouais, c'est ça.
Alors, de temps en temps, c'est construit. Lilium, par exemple, une société allemande qui a été créée il y a plusieurs années, elle a été financée à hauteur de plus de 100 millions de dollars, et elle travaille, elle a déjà un proto, il va être testé bientôt avec des passagers. Voilà. Alors, il y a effectivement tous les ans au CES des démonstrations ou des présentations statiques, c'est-à-dire d'appareils au sol qui ne volent pas, d'appareils très très grands, à 6 ou 8 hélices, comme ceux de Bell Hélicoptère ou ceux de Hyundai l'année dernière, et ils étaient présentés en partenariat avec Uber. Et tu sais ce qui s'est passé ?
Uber a trop pédalé.
Uber a décidé d'arrêter, et d'arrêter complètement ce projet-là. Ils ont d'ailleurs aussi arrêté les véhicules autonomes au passage. Et ils ont décidé de revendre cette activité à une société qui s'appelle Joby Aviation, qui est un autre fabricant d'avions électriques. Donc, ça sent pas bon, quoi, pour ce genre de projet.
Voilà. Bon, alors ça existera sans doute un jour, mais c'est pas pour tout de suite, on va dire.
Hein. Ouais, toujours pareil, on peut voir le verre à moitié plein. Les travaux dans ce domaine-là, il faut avancer la science dans les batteries.
Bien sûr.
Il faut avancer la science dans les moteurs. Il faut avancer la science dans les matériaux. Et il y aura probablement des réutilisations de ces technologies-là dans d'autres domaines, même si on n'aura pas le taxi volant pour aller à Roissy le jour où le A1 ou le RER ne marche pas. Quoi.
Pourtant, il y a de belles initiatives. Hein. Je crois qu'il y a une association qui a été montée pour faire des démos pour les JO de 2024. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
Alors oui, et
avec un consortium avec les plus grands transporteurs français.
Exactement.
Pour essayer de se servir des JO comme de vitrine technologique sur des nouveaux objets pour se déplacer.
Tout à fait. Alors je crois que l'aéroport de Paris et la RATP prévoient de tester, avant les JO, entre 2021, 2022 et quelques, ils prévoient de tester des volocoptères. Et Volocopter, tu t'en rappelles peut-être, mais c'était un drone qui était présenté dans un keynote d'Intel il y a au moins 2 ou 3 ans.
Ah ouais.
Et donc, ils avancent. C'est une boîte allemande aussi, je crois, comme l'Ilium. Et ils avancent. Mais j'ai toujours ce côté un petit peu dubitatif parce que oui. C'est pas du mass transit, comme on dit en américain.
Bien sûr, évidemment.
C'est pas du mass transit, ça restera élitiste, même si ça marche.
Voilà, merci Olivier, merci pour tout ça, c'est passionnant bien sûr, voilà la vision d'Olivier Zrati concernant ce CES 2021, tellement particulier, espérons que l'année prochaine on puisse retrouver un semblant de réalité, hein, de physique dans ce CES de Las Vegas.
Et deux des vrais produits.
<C'est clair. rire> Merci en tout cas d'être venu physiquement dans ce studio pour De Quoi Je Me Mêle. Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé, merci de nous avoir suivis, à la fois sur 01 TV, sur BFM Business, et on sera là le week-end prochain bien sûr, portez-vous bien, à très vite.
De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et 01 TV.